Vous écoutez, on lit pour vous.
Amour ou aide sociale? Des personnes handicapées face à un choix. Un texte de Radio-Canada, paru le 9 septembre 2024 dans Ici, Colombie-Britannique. Si les personnes handicapées de la Colombie-Britannique se marient ou deviennent conjoints de fait, les prestations d'aide sociale diminuent en fonction du salaire de leur conjoint. À l'heure actuelle, une personne handicapée peut recevoir jusqu'à environ 1 400 $ par mois en prestations provinciales. Mais si elle est mariée ou en union libre et que son partenaire gagne plus de 19 000 $ par an, le gouvernement commence à supprimer ses prestations. Jessica Gordon a rencontré son conjoint en 2021. Cette période de la vie s'annonçait enthousiasmante, mais lorsqu'elle a voulu passer à l'étape suivante et emménager avec lui, elle a dû y réfléchir à deux fois. Jessica Gordon reçoit des prestations d'invalidité provinciale parce qu'elle souffre de fibromyalgie et qu'elle ne peut plus travailler comme massothérapeute. Elle a appris qu'elle perdrait ses prestations dès qu'elle commencerait à vivre en union de fait. Citation : J'ai été indignée d'apprendre que ces prestations allaient être supprimées. Fin de citation, dit-elle. Il s'agit d'un problème beaucoup trop courant chez les personnes handicapées et d'un facteur qui peut en inciter plusieurs à éviter de commencer ou de poursuivre des relations, selon des personnes handicapées et leurs défenseurs. Citation : J'ai appris que de nombreuses personnes cachent qu'elles ont un partenaire ou restent célibataires. Fin de citation, confie Jessica Gordon, qui vit à Victoria. Cercle d'injustice. La directrice générale de Disability Alliance BC, Elaine Boyd, estime que la réduction des prestations a également des conséquences injustes et potentiellement dangereuses. Citation : Cela crée un scénario dans lequel la personne handicapée devient dépendante de son partenaire non handicapé pour sa subsistance et son bien-être. Fin de citation, déclare-t-elle. Un autre résident de Victoria, Brent Frain, qui anime le balado PWD Allies au sujet des personnes handicapées, considère que les lois sont dépassées. Citation : Je n'ai pas encore trouvé la bonne relation, car en même temps, comme beaucoup de personnes handicapées le craignent, si je m'engageais dans une relation, je risquerais de perdre essentiellement mon revenu. Fin de citation, note M. Frain, qui est aveugle au sens de la loi et dont le médecin a diagnostiqué le trouble déficitaire de l'attention dans les années 1990. Il ajoute que de nombreuses personnes avec lesquelles il s'entretient évitent également de s'engager dans une relation sérieuse ou mentent à ce sujet et, par exemple, ne déclarent pas qu'elles vivent en union libre. Elaine Boyd plaide quant à elle depuis des années pour la suppression du plafond pour les conjoints ou au moins pour l'augmentation du seuil de revenu de 19 000 $. Citation : Nous avons besoin d'un gouvernement provincial qui apportera ces changements, qui s'attaquera à la pauvreté et qui aura l'humilité de reconnaître que son propre gouvernement s'est rendu complice du maintien dans le cycle de la pauvreté. Fin de citation. La ministre du Développement social et de la réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique, Sheila Malcolmson, affirme qu'elle a hérité de cette politique des gouvernements précédents en place depuis longtemps. Citation : Les familles s'occupent les unes des autres. Je pense que c'était la façon dont les choses étaient perçues dans le passé. Fin de citation, soutient-elle. Sheila Malcolmson dit qu'elle espère pouvoir s'attaquer à ce problème. Emménager ensemble. Jessica Gordon a finalement décidé d'emménager avec son partenaire lorsque la loi sur la prestation d'invalidité du Canada a été adoptée l'année dernière. La loi prévoit une prestation maximale de 200 $ par mois pour les Canadiens handicapés à faible revenu à partir de juillet 2025. La prestation fédérale est censée s'ajouter aux prestations provinciales, mais la Colombie-Britannique n'a pas encore confirmé si elle déduira ce montant ou non. Le ministère du Développement social indique que les détails de la réglementation de la prestation d'invalidité du Canada n'ont été publiés que récemment. Nous évaluons actuellement l'approche fédérale et ce qu'elle signifiera pour les personnes recevant une aide à l'invalidité en Colombie-Britannique, ajoute-t-il. Citation : Une mise à jour sera fournie dès que nous disposerons de plus d'informations. Fin de citation, précise le communiqué du ministère. C'était « Amour ou aide sociale? Des personnes handicapées face à un choix », un texte de Radio-Canada paru le 9 septembre 2024 dans « Ici, Colombie-Britannique ».
Fraude envers les aînés, des proies faciles de plus en plus ciblées. Un texte de Daniel Renault paru le 7 septembre 2024 dans La Presse. C'est un crime dégueulasse. 9 janvier 2024. Vers 10 heures, le téléphone sonne chez Raymond Lauzon, qui vient de rentrer à la maison après un autre quart de travail, par une nuit froide d'hiver. « Papounet, c'est moi. Je viens d'être impliqué dans un accident. Je textais au volant. J'ai blessé une personne et la police a saisi mon téléphone. Mon avocat va t'appeler dans une demi-heure, » dit l'interlocutrice à M. Lauzon, qui reconnaît la voix de sa fille et s'inquiète. Le piège est tendu. Suivent plusieurs appels du pseudo-avocat qui demande au sexagénaire 5 000 $ pour payer la caution qui permettra à sa fille d'obtenir sa liberté provisoire. M. Lauzon propose d'aller lui-même la payer au palais de justice de Longueuil. « Impossible, » lui répond le fraudeur, exploitant une véritable agression commise contre un interprète du palais le jour même pour faire croire à M. Lauzon que le bâtiment est inaccessible. Vers 17 heures, une fausse greffière se rend chez M. Lauzon chercher l'enveloppe contenant la somme retirée plus tôt par la victime à sa banque. Elle disparaît aussi vite qu'elle était arrivée. La fille fictive de M. Lauzon l'appelle une dernière fois pour le remercier, en prenant soin de lui dire de ne pas venir la voir, car sa mésaventure l'a épuisée et elle veut se coucher. Le lendemain, M. Lauzon croise sa fille, la vraie, celle-ci, au travail. « Et puis, l'accident ?» lui demande-t-il. « Quel accident ?» répond sa fille. M. Lauzon comprend qu'il a été abusé et que ses 5 000 $ durement gagnés sont partis en fumée. Des histoires comme celle de M. Lauzon, il y en a des milliers, en particulier depuis la pandémie de COVID-19. Des économies dilapidées. En 2020 et 2021, sur une période de 2 ans, la section des crimes économiques du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, a ouvert 69 dossiers de fraude de type faux représentant visant les personnes âgées. Pour la seule année 2023, elle en a ouvert 503, 7 fois plus 629% en 2 ans. En 2022, les personnes âgées, plus de 65 ans, représentaient 16% des victimes de tous les dossiers ouverts à la section. Un an plus tard, cette proportion a grimpé à 20%, une victime sur 5. À Laval aussi, on enregistre annuellement de nombreux cas de fraude dont les victimes ont plus de 65 ans. Pour flouer une personne âgée, les fraudeurs vont miser sur la pression, le sentiment d'urgence, l'absence de choix, la corde sensible, la peur, etc. C'est beaucoup plus facile de prendre une personne âgée qui ne maîtrise pas la technologie qu'une personne comme vous et moi. Elles sont des proies faciles, dit Gabrielle Ferland, inspectrice aux enquêtes criminelles du service de police de Laval, SPL. Les sommes volées lors de fraudes de type faux représentant et grands-parents varient entre 1 000 et 30 000 $, dit-elle. La plupart du temps, ces sommes ne seront jamais récupérées puisque la plupart des institutions financières ne remboursent pas une victime qui a fourni de bonne foi ses informations personnelles aux fraudeurs. Pour certaines d'entre elles, ce sont les économies d'une vie qui sont dilapidées, se désole le commandant de la section des crimes économiques du SPVM, Steve Belzil. Des impacts financiers et psychologiques. C'est un crime dégueulasse, profiter du monde de même. Des gens qui travaillent à la sueur de leur front, peste M. Lauzon. M. Lauzon a décidé de raconter ouvertement son histoire pour contribuer à prévenir ces crimes. À cause de ça, j'ai payé mes impôts en retard et j'ai dû verser des intérêts. Je dois retarder mon départ à la retraite. Je vais avoir 70 ans en mai et je travaille encore. Il me faudra au moins une autre année avant d'être capable de clairer ma voiture, dit Raymond Lauzon, victime d'une fraude. Une personne vulnérable victime de fraude peut ensuite souffrir d'insomnie, ressentir de la peur et beaucoup d'anxiété, affirme la lieutenant détective Isabelle Côté du SPL, spécialiste des fraudes et des vols de véhicules. Lorsque les fraudeurs appellent les victimes, ils se font passer pour des proches, mais aussi des avocats, des policiers ou des employés de banque. Par la suite, les victimes ont une très grande méfiance. Lorsqu'on les appelle, elles ne répondent plus. Il y a une perte de confiance en général envers le réseau qui est censé les supporter. On se trouve alors à avoir des bâtons dans les roues parce qu'elles sont devenues très méfiantes, décrit-elle. Une lueur d'espoir en 2024. L'explosion du nombre de fraudes envers les aînés constatées depuis la pandémie semble vouloir diminuer en 2024, selon les statistiques du Centre antifraude du Canada. Cette tendance fait suite à plusieurs coups de filet de la police. Au printemps dernier, la police provinciale de l'Ontario, avec plusieurs corps de police, dont la Sûreté du Québec, SQ, et le SPVM, a arrêté une quinzaine de présumés fraudeurs de type grands-parents à Montréal, à l'issue d'une enquête appelée SHARP. La SQ a aussi démantelé un réseau de fraudeurs reliés à la mafia l'an dernier dans le cadre d'une grande enquête baptisée « Partenariat ». De tels réseaux débordent du Québec et font des victimes chez les personnes âgées jusqu'aux États-Unis. Le crime organisé en retire des redevances. Il protège les centres d'appel et les employés et gère la récupération de l'argent, affirme l'inspecteur-chef Michel Patnaud, responsable des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec. C'est épouvantable comment ils font de l'argent. C'est une priorité pour nous parce que le crime organisé s'enrichit et fait des victimes dont on doit s'occuper, poursuit M. Patnaud. En 2022 et 2023, les enquêteurs des crimes économiques du SPVM, souvent en collaboration avec les postes de quartier, ont effectué 30 arrestations. Récemment, le SPVM a lancé un appel à la vigilance contre des fraudeurs qui visent particulièrement les aînés et qui se font passer pour des entrepreneurs, proposent des travaux prétendument urgents et demandent des dépôts de plusieurs milliers de dollars. Taxi et crypto-monnaie. Les enquêteurs ont commencé à voir des victimes âgées payer les fraudeurs en crypto-monnaie en suivant leurs instructions. Ils ont aussi fait face à des cas où les victimes sont montées à bord des véhicules des fraudeurs qui les ont ensuite amenées à leur institution financière pour qu'elles effectuent des retraits. M. Lauzon, lui, est certain qu'on a imité la voix de sa fille. Est-ce que les fraudeurs vont jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle, IA, pour imiter la voix de parents de leurs victimes? Les fraudeurs fonctionnent quasiment comme un service de répartition. C'est un appel après l'autre. Je verrais mal pourquoi ils mettraient tant d'efforts pour imiter la voix pour des sommes de 3, 4 ou 5 000 $, alors qu'au prochain numéro, ils pourraient réussir. L'intelligence artificielle... « On n'en est pas encore là, mais on commence à se préparer », conclut l'inspectrice Gabrielle Ferland, du SPL. Les fraudeurs sont ingénieux et voraces. Une semaine après nous avoir accordé cette entrevue, M. Lauzon a reçu un autre appel de sa fille, de nouveau impliquée dans un accident. Cette fois-ci, il ne s'est pas laissé prendre. C'était « Fraude envers les aînés », des proies faciles de plus en plus ciblées. Un texte de Daniel Renault paru le 7 septembre 2024 dans La Presse.
Étudiant étranger, un élève dépité, son cégep préoccupé. Un texte de Suzanne Colperon paru le 9 septembre 2024 dans La Presse. Pourquoi? Parce qu'il est victime des efforts du gouvernement québécois pour réduire le nombre d'étudiants étrangers. « J'ai le moral dans les chaussettes. confie Simon Moreau au bout du fil à Matane. Cet étudiant de 22 ans, originaire de Nantes en France, étudie au cégep de Matane en Gaspésie depuis 2021. En mars, il a entrepris des procédures pour prolonger son permis d'études qui était de 3 ans. Pour ce faire, il a demandé au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MIFI, un nouveau certificat d'acceptation du Québec, CAQ, un document préalable à la délivrance du permis d'études par le fédéral, réservé aux étrangers souhaitant étudier au Québec. Mais, surprise, le MIFI a refusé de le lui accorder parce qu'il n'avait pas fait des études sa principale activité pendant toute la période de validité de son premier CAQ. À la session d'automne, Simon a suivi 3 cours. Il aurait dû en suivre au moins 4 pour répondre aux exigences, selon le MIFI. Résultat, à moins d'une décision contraire, il ne pourra pas terminer son DEC en soins infirmiers et devra quitter sa résidence du cégep d'ici la mi-septembre. Le problème, c'est que Simon ignorait qu'il devait faire au moins 4 cours par session pour obtenir un nouveau CAQ. Même son cégep n'était pas au courant. « Ce refus est une première pour nous », affirme Francis Turcotte, coordonnateur au service des communications et du développement international du cégep de Matane. Citation: il faut savoir qu'on accueille des étudiants étrangers depuis plus de 20 ans. On est parmi les cégeps au Québec qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants étrangers. Fin de citation. C'est sûr que c'est une situation qui nous préoccupe, ajoute-t-il. Un DEC en 4 ans. Le collégien a terminé sa première année d'études avec succès. C'était relativement simple, dit-il. J'ai eu de très bonnes notes. Mais la suivante a été plus difficile. Il ne le cache pas, il a traversé un épisode dépressif. Citation: les choses ont commencé à se corser en 2e année. C'est quelque chose de connu au sein du programme. La 2e année est vraiment beaucoup plus dure que la première. C'est très exigeant. Il y a énormément de données à retenir. Et donc, à la session d'automne 2022, c'était assez compliqué. Fin de citation. Citation: j'ai vraiment galéré, mais j'ai pris sur moi. J'ai travaillé, je ne suis quasiment pas sortie de la session et j'ai révisé avec un ami. Voilà, ça s'est relativement bien passé. J'ai eu de bonnes notes. Ma pire note, c'était 72%. Fin de citation. Vivre seul, loin de ses parents, de sa famille et de ses amis à Matane, une petite ville de campagne où le cégep est très loin du centre attractif de la ville, comporte son lot de défis. Mais l'élément déclencheur de sa dépression a été la dureté des cours. À la fin de la session d'automne 2022, Simon a donc pris la décision, conjointement avec l'aide pédagogique individuelle, API, du cégep de Matane, et soutenu par une attestation du médecin, de faire son DEC technique en 4 ans plutôt qu'en 3. Il a repoussé d'un an les cours de soins infirmiers qu'il devait faire à la session d'hiver 2023 pour ne suivre que 3 cours. Puis, à la session d'hiver 2024, il a réussi ses cours de soins infirmiers. Simon Moreau est loin d'être seul dans cette situation. À peine un tiers des cégepiens obtiennent leur diplôme dans les temps prévus, selon les données gouvernementales obtenues en 2023, à la suite d'une demande d'accès à l'information de la presse. Citation: nos étudiants étrangers, comme nos étudiants québécois, font de moins en moins leurs études en 2 ou 3 ans, la durée normale. Fin de citation, confirme Francis Turcotte du cégep de Matane. Citation: il y a de plus en plus de demandes de renouvellement de CAQ, parce que les étudiants n'arrivent pas à faire leur diplôme en 3 ans. Ils vont le faire en 4 ans. Ça ajoute une couche de complexité pour notre équipe. Fin de citation. Surpris, amer et désarçonné. Le MIFI a envoyé à Simon une première intention de refus le 17 avril. Citation: vous n'avez pas démontré satisfaire aux conditions du programme des étudiants étrangers, conformément au règlement sur l'immigration au Québec. Fin de citation. Lui a-t-on indiqué. L'élève a acheminé les documents et les preuves demandées, mais le MIFI a refusé sa demande de CAQ le 10 juin et a maintenu sa décision le 29 août à la suite d'une demande de réexamen administratif. citation, on juge que les raisons de refus du MIFI ne sont pas nécessairement appropriées. Fin de citation, dit Francis Turcotte du Cégep de Matane. Citation, ce n'est pas parce que Simon n'a pas étudié, ce n'est pas parce qu'il a eu des échecs dans ses cours. Pour d'autres étudiants, ça peut être le cas. Simon, ce n'est pas ça. C'est une situation qui nous fait de la peine. Fin de citation. L'étudiant est apprécié de ses professeurs et de l'équipe internationale du Cégep, ajoute M. Turcotte. En plus de ses études, Simon a travaillé à temps partiel, environ 10 heures par semaine, comme préposé aux bénéficiaires au CHSLD de Matane. Citation. Comment comprendre les démarches d'un État qui, chaque année, envoie des délégations d'établissements recruter des étudiants français, leur promet une solide formation, des débouchés professionnels et qui les abandonne sur le chemin de leurs études? Fin de citation, demande sa mère, Sandrine Gadet. Citation, nous sommes tout à la fois surpris, amers et désarçonnés par cette décision administrative, poursuit-elle. Nous sommes terriblement déçus, car, comme Simon, nous avons cru à ce rêve québécois. Fin de citation. Le rêve canadien. Simon a encore quelques options pour poursuivre son rêve québécois. La première, c'est d'espérer une intervention divine. Mais les chances sont minces, estime Maître Nadia Barou, spécialisée en immigration. Citation. On dirait que le MIFI a embauché du monde avec la consigne de chercher le moindre détail pour refuser. Fin de citation. La seconde option, c'est d'essayer de déjouer la bureaucratie en obtenant, par exemple, un permis de travail fermé si jamais il doit attendre un an avant d'obtenir un CAQ et pouvoir reprendre ses études à Matane. La troisième consiste à rentrer en France et réintégrer une école en soins infirmiers avec, souhaite-t-il, une équivalence de cours. Sinon, citation, c'est rentrer en France sans rien et être venu ici et avoir perdu 3 ans de ma vie. Fin de citation. Il existe une quatrième option, suggérée par Maître Barou et d'autres avocats en immigration, tenter le rêve canadien en allant étudier dans une autre province où les règles sont plus souples et où on recherche des immigrants francophones. C'était « Étudiants étrangers, un élève dépité, son cégep préoccupé », un texte de Suzanne Colperon, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse.
Québec injecte 4,5 millions pour la prévention du suicide. Un texte de Thomas Laberge paru le 10 septembre 2024 dans La Presse. En cette journée mondiale de la prévention du suicide, le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, accorde 4,5 millions au Centre de prévention du suicide au Québec. Cette somme est une réponse au rapport d'enquête publique de la coroner Maître Julie Kim Godin, publié en juin 2023, portant sur le suicide de 5 personnes entre 2017 et 2019. Le rapport recommandait notamment de déployer les ressources nécessaires pour la mise en place de centres de prévention du suicide et de centres de crise communautaire de manière équitable dans toutes les régions du Québec. On recommandait aussi qu'ils soient mieux financés. Les centres de prévention du suicide proposent un éventail de services adaptés à la complexité de la problématique du suicide au Québec. Entre autres, une ligne d'intervention 24/7, la sensibilisation de la population, le soutien à l'entourage d'une personne qui pense au suicide, l'intervention dans un milieu à la suite d'un suicide, les services pour personnes endeuillées par suicide, ainsi que la formation de sentinelles pour la prévention du suicide, des professionnels et des intervenants-intervenantes, peut-on lire dans le communiqué du ministre. Il y en a actuellement 33 au Québec répartis dans 15 régions. Selon les données préliminaires du Bureau du coroner en chef du Québec, il y aurait eu minimalement 1102 suicides au Québec en 2022. Québec s'est fixé comme objectif de diminuer d'au moins 10 % le nombre de décès par suicide dans sa stratégie 2022-2026. C'était « Québec injecte 4,5 millions pour la prévention du suicide », un texte de Thomas Laberge paru le 10 septembre 2024 dans la presse.
La liste d'attente pour les enfants autistes s'allonge encore en Ontario. Un texte de Radio-Canada, paru le 11 septembre 2024 dans RCI. Le temps d'attente pour une subvention dépasse 5 à 7 ans, selon la Coalition ontarienne de l'autisme. Malgré les promesses du gouvernement de Doug Ford, les parents de plus de 73 000 enfants autistes attendaient de recevoir une subvention pour des services d'aide à la fin de juin, alors qu'un peu plus de 14 100 enfants avaient une aide financière, selon la presse canadienne. La Coalition ontarienne de l'autisme, OAC, dénonce le fait que la liste d'attente ne cesse de s'allonger, nouvelle fenêtre, pour le remboursement des services d'analyse comportementale et d'orthophonie, notamment. Le temps d'attente pour recevoir une subvention dépasse maintenant 5 à 7 ans, estime la Coalition. Selon les documents obtenus par la presse canadienne grâce à une demande d'accès à l'information, le nombre d'enfants autistes touchant une subvention a même diminué durant la période du 29 mai au 12 juin. Il y avait alors au total 70 enfants de moins qui étaient couverts, alors que 491 enfants étaient ajoutés à la liste d'attente. Le ministère des Services à l'enfance affirme par courriel que la baisse du nombre d'enfants couverts, citation, pourrait être attribuable au fait que plus d'enfants et de jeunes ont quitté le programme, en raison de leur âge ou d'autres raisons, durant cette période de 2 semaines. Fin de citation. Doug Ford se défend. Le premier ministre Doug Ford affirme que le système était en faillite lorsqu'il a pris le pouvoir en 2018. Citation. C'est très difficile pour ses parents, mais on a accru le financement de façon substantielle et on va continuer à faire des investissements. Fin de citation. La province dit avoir doublé le financement pour l'autisme en 2019 pour un total de 600 millions de dollars par an. Le gouvernement ontarien n'informe pas les familles du temps d'attente prévu. En attendant de recevoir une subvention, les ménages doivent payer de leur poche pour que leur enfant ait des services d'aide, ce qui peut représenter des milliers de dollars par an. C'était La liste d'attente pour les enfants autistes s'allonge encore en Ontario. Un texte de Radio-Canada, paru le 11 septembre 2024 dans RCI.